Bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de service quotidien en ce mardi 7 novembre 2017. C'est Hélène Denis qui vous accompagne et en face de moi, je retrouve mon complice du mardi et du lundi, Jean-Sébastien Laliberté. Comment allez-vous?
Ça va très bien, Hélène. Et vous de même?
Oui, ça va, merci. Il fait beau, fait froid. J'ai sorti mon manteau d'hiver ce matin.
J'ai hésité longtemps.
Oui?
Oui, parce que prenant le transport en commun, une fois qu'on est dans le métro, il ne fait pas aussi froid. Donc, un manteau plus chaud veut dire confort inexistant.
C'est ça, confort... J'allais dire douteux, mais
alors,
enfin...
j'y suis allé avec la technique des pelures d'oignon. Donc, plusieurs couches qui s'enlèvent facilement pour s'ajuster à toute température.
La technique parfaite pour vous.
En ce 7 novembre, je me lance dans les éphémérides. Événement marquant tout d'abord, 7 novembre 1659, la France et l'Espagne signent le traité des Pyrénées par lequel Louis XIV épouse Marie-Thérèse, moyennant une dot de 50 000 écus d'or. 1885, le chemin de fer transcontinental canadien est complété, 4600 km de rails, on avait prévu 11 ans pour le faire, il se sera fait en 5 ans. Parenthèse éditoriale, donc dans le temps on prévoyait 11 ans et on le faisait en la moitié du temps et on pourrait passer sous silence le service rapide de bus sur Pinneuf, l'extension de la ligne bleue, les allongements d'autoroute à Québec. Bien, d'autres projets qui...
Etc.
Fin de la parenthèse. 7 novembre 1900, il y a donc 117 ans aujourd'hui, les libéraux remportent les élections fédérales pour une deuxième fois sous la direction de Wilfrid Laurier. 1935, Maurice Duplessis et le chef de l'Action nationale, Paul Gouin, forment l'Union nationale. Duplessis, porté au pouvoir en août 1936, écartera Gouin. 1967, la Cour suprême décide que les droits aux ressources de la côte ouest appartiennent à l'État fédéral et non à la Colombie-Britannique. 7 novembre 1991, le basketteur Irvin Johnson, Magic Johnson, des Lakers de Los Angeles, annonce qu'il est porteur du VIH. Histoire qui fera beaucoup de bruit, il quittera le sport l'année même alors que plusieurs émettent des craintes concernant une possible contamination des autres joueurs.
Est-ce qu'il est encore en vie?
Je crois qu'il est encore en vie. Après cette retraite en 1991, il est revenu jouer pendant quelques temps, mais depuis, il a pris sa retraite.
Merci.
Sa retraite officielle, donc. 1999, toujours un 7 novembre, deux fossiles de poissons de 530 millions d'années, antérieurs de 50 millions d'années aux plus vieux fossiles de vertébrés connus jusqu'alors. Donc, les plus anciens fossiles découverts sont sortis de terre en Chine. On parle donc de deux fossiles datant de 530 millions d'années. Ce n'est pas hier. 7 novembre 2000, le résultat est trop serré. Autre histoire dont on se rappelle sans doute. Résultat trop serré en Floride pour départager les candidats à la présidence entre George W. Bush et Al Gore. Hillary Clinton est élue sénatrice de l'État de New York et il faudra... 36 jours avant que la Cour suprême déclare George W. Bush vainqueur, ayant une majorité de grands électeurs, mais 300 000 votes de moins au total. Les naissances en ce 7 novembre, la physicienne française Marie Sklodowska, qui deviendra Marie Curie, née le 7 novembre 1867, également la naissance en 1879 du révolutionnaire Lev Davidovich Bronstein, qui deviendra Léon Trotsky. 1913, l'écrivain Albert Camus, né en Algérie.
C'est son vrai nom, lui?
Oui, ça semblerait que c'est son vrai nom. Il n'avait pas de nom d'artiste, mais on termine avec un autre qui avait un autre sobriquet, né le 7 novembre 1929, le comédien Marc Favreau. Sol. Et donc lui qui est né à Montréal. Et finalement, le décès le 7 novembre 1980, l'acteur américain Steve McQueen.
Ah oui, Magic Johnson, ça aussi, c'était pas son vrai nom, vous nous l'avez dit tantôt.
Irvin Johnson.
Oui, il a 58 ans. Il est né le 14 août 1959, toujours en vie. Merci Jean-Sébastien. En une de la presse de ce mardi 7 novembre, élection municipale 2017, comment elle a gagné. Alors, on voit la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans les coulisses de la campagne de Projet Montréal. Actualité métro, la ligne rose est-elle réaliste? La presse au Texas, Jésus, Satan et des armes. Nouveau lendemain de tuerie, nouvelle occasion ratée. Et section art, le Québécois qui a séduit la Finlande, la surprenante carrière d'André Noël Shaker qui vient d'offrir une ode à son pays d'adoption. À la tête de Projet Montréal depuis moins d'un an, Valérie Plante a fait son entrée à l'Hôtel de Ville par la grande porte. Rima El-Khoury et Michel Ouimet commentent sa victoire retentissante. Alors, je vous lis quelques passages de la chronique de Rima El-Khoury. La déroute du Boys Club 375 ans plus tard, ce qui me surprend, ce n'est pas qu'une femme soit devenue mairesse de Montréal. Ce qui me surprend, c'est que l'on soit aussi surpris. Comme s'il s'agissait d'un changement précipité, comme si Valérie Plante était une extraterrestre, devenue mairesse par magie, comme si c'était normal d'avoir attendu tout ce temps. Mais voyons, pourquoi cet empressement à vouloir faire élire une femme après seulement 375 ans de règne masculin? Mesdames, vous avez eu Jeanne Mance en 1642, il ne faudrait tout de même pas exagérer, soyez patientes. On ne compte plus le nombre de commentaires paternalistes essuyés par la chef de Projet Montréal qui a détrôné Denis Coderre dimanche soir. On a parlé d'une victoire par défaut contre un maire sortant qui a sous-estimé son adversaire, comme quoi le fait d'être sous-estimé pour une femme aspirant à un poste de pouvoir est parfois un avantage. Comme si une femme ne pouvait pas être l'homme de la situation. Tout ça est louche. Il doit y avoir un homme, un vrai là-dessous. Un homme comme Luc Ferrandez n'a cessé de marteler le maire sortant. On a beaucoup parlé du sourire de Valérie Plante. On a parlé de sa manière d'être, de son côté jovial. On a parlé de ses boucles d'oreilles, comme si la forme pour les femmes était toujours plus importante que le fond. Les choses sérieuses, c'est bien connu, sont le registre des hommes. À mon sens, il y a sous cette prise de pouvoir au féminin quelque chose de plus profond que l'on tend à passer sous silence. La victoire historique de Valérie Plante et de son équipe me semble emblématique d'un ras-le-bol devant le traditionnel Boys Club, qui tient pour acquis que le pouvoir lui revient. Elle laisse transparaître un désir d'ébranler les colonnes du temple dans la foulée du mouvement « Moi aussi ». Elle n'est pas étrangère à l'ouragan social dont parlait la ministre de la Condition féminine, Hélène David, au lendemain de l'affaire Weinstein. La déroute du Boys Club est aussi le résultat d'une vaste prise de conscience. On réalise de plus en plus que si des comportements comme ceux que l'on reproche à Gilbert Rozon et à d'autres hommes de pouvoir ont été tolérés aussi longtemps, c'est parce que les structures du pouvoir le permettent. Et aussi des extraits de la chronique de Michel Ouimet, La vague rose. Bien avant les élections de 2013, Denis Coderre m'avait appelé pour me demander si je voulais luncher avec lui. À l'époque, je couvrais le municipal. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il veut devenir maire de Montréal. Député libéral à Ottawa depuis 1997, il faisait du surplace. Véritable bête politique, il cherchait un nouveau défi. Au restaurant, Denis Coderre me tutoyait gros comme le bras. Pourtant, on se connaissait peu et j'avais presque 10 ans de plus que lui. Insensible à sa familiarité, je lui donnais du « vous » et du « monsieur Coderre ». Il voulait savoir comment fonctionnait la politique municipale. Il était préoccupé par une question. Pouvait-il se présenter à la mairie sans créer un parti? Je lui avais poliment répondu que je n'étais pas une conseillère, mais une journaliste et qu'il n'avait qu'à embaucher un spécialiste s'il voulait des réponses à ses questions. J'en avais profité pour lui poser des questions sur Montréal. Son ignorance était surprenante. Il ne connaissait rien ou presque au fonctionnement du conseil municipal. Une seule chose l'intéressait, le pouvoir, il n'avait qu'une vision, lui. On reproche à Valérie Plante son manque d'expérience de la politique municipale. Laissez-moi rire, elle en a 100 fois plus que Denis Coderre en 2013 lorsqu'il a été élu maire de Montréal. La ligne rose, réaliste ou trop coûteuse, la ligne rose du métro, proposition phare de la nouvelle mairesse de Montréal, a le potentiel de régler les problèmes d'engorgement de la ligne orange et de desservir enfin une population privée d'infrastructures efficaces de transport collectif. Mais le projet est-il vraiment réaliste ou trop coûteux? Les banlieues sont-elles disposées à l'appuyer après la réalisation de la ligne bleue? Des experts se prononcent. Alors, je vais vous donner une partie de leurs réponses. D'abord, Ahmed El-Jenedi, professeur associé à l'École d'urbanisme de l'Université McGill, membre du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain. C'est Bruno Bisson qui a fait les entrevues. Il lui pose la question, la ligne rose est-elle un projet réaliste? C'est la première question. Le principal problème avec ce projet, c'est l'incertitude quant au coût. Construire sous la terre, c'est coûteux. Projet Montréal soutient qu'on l'emploierait une technique de tunnelier qui a été utilisée en Espagne pour réduire les coûts. Mais jusqu'à quel point les coûts seront-ils réduits? Je ne suis pas un expert en évaluation des coûts, mais comparons avec le métro de Laval. Il a coûté 800 millions pour 5 km il y a 10 ans. La ligne rose est 6 fois plus longue et compte beaucoup plus de stations. Quant à Pierre-Léo Bourbonnais, associé de recherche et chargé de cours à Polytechnique titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en génie civil transport, il a collaboré à la conception de la ligne rose et à la question « Est-ce un projet réaliste? » Il répond « Oui ». L'utilisation d'un tunnelier pour creuser les tunnels est une technique qui est de plus en plus utilisée. La machine tourne tout le temps. On peut ouvrir une ou deux stations par année à mesure qu'on avance. L'idée d'utiliser un matériel roulant fer sur fer au lieu des pneumatiques comme le métro actuel, permet de réduire les coûts parce qu'il y a un plus grand nombre de fournisseurs et que l'équipement de voie est standard au lieu de devoir être fait sur mesure. Ça se fait partout dans le monde maintenant. L'avenir du directeur du SPVM sera en jeu. C'est un article de Daniel Renault et de Pierre-André Normandin. Le directeur du service de police de la Ville de Montréal, SPVM, Philippe Pichet, et la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, auront bientôt un face-à-face au cours duquel l'avenir du chef de police sera au programme. Lors d'une courte entrevue avec la presse, Philippe Pichet n'a pas voulu aborder la question de son avenir. Il a toutefois confirmé avoir appelé Mme Plante après son élection pour la féliciter et convenir d'une rencontre dans les prochains jours. J'ai eu la chance de lui parler, c'était très sympathique. Nous allons nous rencontrer pour nous parler de la vision que nous avons chacun pour Montréal. A résumé Philippe Pichet. Ce sont les citoyens qui l'ont mise là, les mêmes citoyens que je protège. Je suis là pour tous les Montréalais, a dit Philippe Pichet. De son côté, le cabinet de Mme Plante a confirmé ce qu'il a décrit comme un appel de courtoisie et attesté que la mairesse et le chef ont convenu de se rencontrer rapidement pour parler de leurs visions respectives du SPVM pour les 4 prochaines années. Rectificatif dans la presse à propos de José Néron. Dans notre numéro d'hier, nous avons écrit que José Néron, élu mairesse de Saguenay, était la dauphine de l'ex-maire Jean Tremblay. Au contraire, Mme Néron siégeait depuis 2013 comme conseillère de l'opposition au parti de M. Tremblay. Toutes nos excuses.
Take me down.
Nouveauté de Beatrice Keeler, ça s'intitule Keep Astray.
À la une du Devoir, la majorité féminine pour la première fois à Montréal, il y a plus d'élus ES que d'élus US. Photo de la très souriante Valérie Plante. Lundi matin, la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, était dans la rue, tout sourire, pour remercier les électeurs. Le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, est allé à sa rencontre pour lui réitérer ses félicitations. La stratégie gagnante, 11 mois ont suffi pour réunir les conditions de la victoire de Valérie Plante. Regarde dans les coulisses de ce succès. Société, l'information à travers la lentille des genres. Jessica Bennett est la première Gender Editor, poste créé au New York Times. Citant par exemple des enjeux d'équité salariale, de violences faites aux femmes et les défis des transgenres, le quotidien américain The New York Times a créé un poste de Gender Editor ou éditeur des questions de genre. La célèbre publication a confié le poste à Jessica Bennett, journaliste et auteure du livre Feminist Fight Club. Le Devoir lui a posé quelques questions, entrevue de Philippe Papineau. Des noms qui voyagent mal, d'honnêtes citoyens, parfois des enfants en très bas âge, ont de la difficulté à prendre l'avion parce qu'ils partagent le nom d'un présumé terroriste. Ottawa est prié d'agir. Justin Trudeau dans la tourmente des Paradise Papers. Le Goncourt et le Renaudot attirent les regards sur les drames de l'histoire. Il était déjà sérieusement craquelé, mais ce n'est qu'hier que le plafond de verre de Montréal a fini par céder. Pour la première fois de son histoire, la métropole compte plus de femmes que d'hommes parmi ses élus. En comptant l'élection de la première mairesse en 375 ans d'histoire, 53 femmes sur 103 ont été élues à la Ville de Montréal, alors qu'elles étaient 45 tout juste avant le déclenchement des élections. Elles sont également plus nombreuses qu'avant à être mairesse d'arrondissement. 8 arrondissements sur 19, incluant celui de Valérie Plante, qui est de facto mairesse de Ville-Marie, contre 5 auparavant. Même que la mairie de la Chine, dirigée par Maja Vodonovic de Projet Montréal, est presque exclusivement féminin, car un seul homme y siégera. « C'est fou, hein? » s'est exclamée Dany Deschênes, élue mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot par acclamation. « Je suis impressionnée par la décision des Montréalais. C'est un changement très important pour la métropole et pour nous aussi. » Ça va avoir un impact sur toutes les municipalités de la communauté métropolitaine. Le Conseil du statut de la femme a pour sa part parlé d'un vent de renouveau et le groupe Femmes, Politique et Démocratie s'est aussi réjoui des résultats de cette élection 2017. Quoi qu'il en soit, la mairesse de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot dit espérer qu'on aille au-delà des questions de genre. C'est sûr qu'être une femme en politique, ça peut être emballant pour d'autres femmes, dit Dany Deschênes. Mais je ne pense pas que ça doit être plus important que le rapport de changement qu'apporte la personne. Moi, voilà tout le temps dont disposait Projet Montréal pour construire, entre guillemets, Valérie Plante aux yeux du grand public. Une mission en apparence impossible, mais qui s'est conclue dimanche sur un retentissant succès, soigneusement planifié. Le premier défi après son élection comme chef du parti en décembre 2016 a été de la faire connaître, raconte Youssef Aman, attaché de presse de Projet Montréal. On savait qu'on partait de loin, mais on a fait le pari que plus les Montréalais sauraient qui elle est, plus elle serait appréciée. On a refusé pratiquement aucune entrevue, même à des radios sportives, aucun événement. Embauché peu après l'élection de Mme Plante, son conseiller attaché de presse, Marc-André Villot, s'est affairé en parallèle à comprendre qui était Valérie Plante et ce qu'elle voulait pour Montréal. Partant de là, on a créé un branding, entre parenthèses, une image de marque pour elle, de manière à la définir et à la mettre en contraste avec Denis Coderre. Ce qui n'était pas si sourcier, note M. Villot, dans la mesure où les deux candidats à la mairie avaient des styles et des tempéraments très différents. Ce travail de configuration et de visibilité de la candidate a été appuyé par une présence très active sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ces considérations, Valérie Plante doit surtout sa victoire à sa performance et à ses qualités personnelles, résumaient plusieurs élus dimanche au Corona. Le mot de la fin à la prédiction faite par Luc Ferrandez dès l'élection de Valérie Plante il y a 11 mois, à la grande surprise de tout le monde, elle va finir par battre Denis Coderre. C'est chose faite depuis dimanche. Dur lendemain de veille pour les transfuges, ils ont abandonné leur ancien parti pour se joindre à l'équipe Coderre qui avait le vent dans les voiles. Ils ont subi la défaite. Les électeurs montréalais ont sanctionné durement les transfuges qui ont été emportés par la vague Valérie Plante. Le plus influent des membres de l'opposition, Richard Bergeron, fondateur de Projet Montréal, s'est rallié à Denis Coderre quand il a été nommé au puissant comité exécutif de la Ville de Montréal en 2013. Les électeurs ont jugé sévèrement M. Bergeron. Ils ont accordé une majorité de 488 voix, 6 % à son adversaire de Projet Montréal, Robert Baudry, dans le district électoral de Saint-Jacques. Richard Bergeron n'a pas été le seul transfuge à subir les foudres des électeurs. Les maires d'arrondissement Réal-Ménard et Russell Kopman, qui portaient les couleurs d'équipe Coderre après avoir été élus sous la bannière de Coalition Montréal, ont subi la défaite dimanche. Les conseillers Marc-André Gadoury, Érica Duchesne, Lorraine Pagé et Elsie Lefebvre, candidat pour Équipe Coderre et élu en 2013 avec d'autres partis, ont aussi mordu la poussière. « Je ne crois pas avoir été défait parce que j'ai changé d'équipe. J'ai l'impression que ça n'a pas été déterminant pour les électeurs », estime Réal Ménard, vaincu par Pierre Lessard-Blais de Projet Montréal avec 4380 voix de majorité à la mairie de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Annie Sanson, autre membre bien en vue de l'administration Coderre, a perdu la mairie de Villeray-Saint-Michel par extension, même si elle n'a pas changé de parti, souligne Réal Ménard. Desmond Morton, professeur au département d'histoire et d'études classiques de l'Université McGill, n'est pas surpris par le sort peu enviable réservé aux transfuges. Il a étudié 229 députés fédéraux ayant changé de parti en cours de mandat entre les années 1921 et 2005. La plupart ont subi la défaite. Les électeurs déplorent généralement que les élus changent d'avis, sauf si la volte-face va dans le sens de leurs propres préjugés, écrivait-il dans une étude publiée en 2006. Après avoir reçu 463 appels en 19 jours, le service de police de la Ville de Montréal a fermé lundi sa ligne téléphonique de dénonciation d'agressions sexuelles. Le nombre d'appels a connu une importante baisse depuis la dernière semaine, mais on veut dire aux victimes que c'est important de dénoncer et qu'elles peuvent le faire en appelant au 911 ou en se rendant dans un poste de quartier, explique Vincent Rosan, commandant à la section des crimes majeurs du SPVM. Les enquêteurs affectés à la ligne téléphonique ont répondu à un total de 463 appels du 19 octobre au 6 novembre 2017. De ce nombre, 98 appels ont abouti à des ouvertures de dossiers d'agression sexuelle.
C'est pas de ta faute, mais je veux que tu saches que ces temps-ci, je trouve qu'on en arrache. On rit plus de nos jokes la même manière. J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs. Même si je pense encore à toi, si je te cherche du haut des toits, même quand il pleuvra encore, je sauterai les craques du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, 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 oh. Le silence des troupeaux. Oh, oh, oh. Sourire que d'habitude. Un matin, il est empreint de lassitude. On rit plus de nos jokes de la même manière. J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs. Même si je pense encore à toi, si je te retrouve dans d'autres draps. Et quand le soleil sera en retard, je sauterai les craques du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, 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 oh. Le silence des troupeaux. Oh, 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 oh. Quand il fera pas beau. Oh, 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 oh. Pour le silence des troupeaux.
On vient d'entendre Philippe Braque avec Le silence des troupeaux.
À la une du Journal de Montréal, 10 pages sur les élections, un vent de fraîcheur. La nouvelle mairesse est arrivée à pied à l'Hôtel de Ville en rencontrant des Montréalais dans les rues. Les chroniques « Les électeurs ne sont pas idiots » de Joseph Facal, « Une leçon de politique riche » Claude Villeneuve, « Des genoux qui claquent à Québec » Jonathan Trudeau et « Un vent de changement » José Legault. Guy Nantel, menace de mort prise au sérieux. Ottawa cache des documents sur l'évasion fiscale en Suisse. Rouyn-Noranda, fier de la victoire d'une fille de la place dans les restaurants et les cafés de Rouyn-Noranda, le sujet de conversation hier était la victoire d'une petite fille de la place qui a su charmer les Montréalais. Lorsque Régent Plante a appris que sa nièce Valérie se lançait en politique municipale, il a tout de suite su que Denis Coderre était dans le trouble. Elle est tellement déterminée et studieuse, nous on sait comment elle est. Mais Denis Coderre ne le savait pas. Il vient de l'apprendre. Il aurait dû la prendre plus au sérieux, a dit M. Plante, qui habite à Ville-Marie, au Témiscamingue. Au Tim Hortons du centre-ville de Rouyn-Noranda, on parlait autant de cette petite fille de chez nous qui a séduit les Montréalais hier matin que de la nouvelle mairesse de la capitale du cuivre, Diane Dallaire. L'homme d'affaires Benoît Côté a côtoyé la famille Plante pendant plusieurs années lorsqu'elle habitait dans le quartier Montée du Sourire. Selon lui, Valérie Plante a le charisme de ses parents depuis l'enfance. Ses parents sont très extravertis et elle aussi, comme on peut le voir. Je ne suis pas surpris, a-t-il dit. Guy Nantel a été menacé de mort. Jean Darvaux, âgé de 48 ans, a comparu hier devant le juge Louis-Marie Vachon de la Cour municipale de Québec où la procureure, maître Caroline Savard, a demandé à ce que l'accusé soit évalué sur son aptitude à comparaître. Il fait face à des accusations de harcèlement et de menaces. Les menaces auraient été proférées la semaine dernière à la suite de la première médiatique du spectacle de Nantel, Nos droits et libertés, qui avait lieu à Québec. Darvaux a écrit qu'il était prêt à tuer et mourir pour défendre sa liberté d'expression. Il aurait mentionné, à la suite de son arrestation, vouloir servir la cause de la protection des femmes et que c'est pour cette raison qu'il avait écrit plusieurs messages haineux à l'humoriste, et ce, sur différentes plateformes. Dans l'un des segments de ce nouveau One Man Show, l'humoriste a abordé le sujet du consentement sexuel et il a parlé du cas de Jerry Sklavounos et d'Alice Paquet. La jeune femme ayant été mise au courant des blagues à son égard, ensuite publié un long message sur Facebook pour dénoncer la situation. C'est à la suite de ce message que les commentaires de M. Darvaux auraient été faits. Toutefois, l'accusé ne s'est pas contenté de s'en prendre au contenu du spectacle de Nantel, allant jusqu'à proférer des menaces personnelles contre l'humoriste. Vendredi, les policiers du groupe tactique d'intervention du service de police de la ville de Québec aurait procédé à l'arrestation de Darvaux, chez qui du matériel informatique et des armes auraient été saisies. Joint par le journal, le producteur du spectacle de Guy Nantel, Éric Young, a fait savoir qu'il avait souvent eu à gérer certaines personnes qui écrivent ou critiquent sur les réseaux sociaux. Par contre, dans le cas de Guy, ça a été extrêmement percutant. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi agressif. L'individu lui écrivait qu'il allait le tuer en lui mettant une balle dans la tête, a-t-il dit. On a eu peur. J'ai encore peur. J'ai dit à Guy que je devais intervenir car c'était sa vie qui était en danger, a-t-il ajouté. L'équipe de Guy Nantel prendra toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de sa première Montréalaise ce soir au Théâtre Maisonneuve. C'est extrêmement important. Il faut que je fasse attention, mentionne le producteur Éric Young. Il n'est pas triste d'avoir perdu devant le parti qu'il a fondé. Richard Bergeron pourrait même choisir de revenir vers Projet Montréal. Candidat de l'équipe Coderre défait dans Ville-Marie, Richard Bergeron pourrait maintenant choisir de se rapprocher de Projet Montréal, le parti qu'il a fondé et qui l'a battu. Emporté par la débâcle de l'équipe du maire sortant, M. Bergeron a perdu sa place au conseil municipal qu'il était parvenu à préserver depuis 2005. Pourtant, loin d'être amer, Richard Bergeron a plutôt rendu hommage hier matin à son ancien parti et à sa nouvelle chef. « Je ne suis pas désolé d'avoir perdu dans les circonstances. Projet est arrivé à bon port avec une capitaine fantastique. Bravo à Val Plante », a-t-il écrit sur Twitter. M. Bergeron n'a pas non plus perdu de temps à réaménager sa biographie sur le réseau social. Disparu, ses titres de membre du comité exécutif de conseiller de Saint-Jacques pour l'équipe Coderre, et de VP de la Commission sur l'inspecteur général. M. Bergeron se présente désormais comme toujours au service de Montréal, fondateur de Projet Montréal, auteur et urbaniste. Ottawa retient des documents potentiellement embarrassants. Un organisme tente de faire de la lumière sur des milliards cachés par des Canadiens. Le gouvernement Trudeau se traîne les pieds pour éviter de devoir fournir des documents sur un dossier explosif d'évasion fiscale de plusieurs milliards de dollars par de riches Canadiens en Suisse, selon un organisme de défense des contribuables. Il y a clairement quelque chose dans le dossier qu'ils ne veulent pas nous donner pour une raison inexpliquée, affirme Michael Dagg, directeur de l'accès à l'information pour l'organisme canadien pour la responsabilité. Alors qu'Ottawa assure vouloir faire une priorité de la lutte à l'évasion fiscale offshore, l'organisme tente en vain depuis 3 ans d'obtenir des documents liés au dossier d'enquête du fédéral sur la banque suisse UBS en vertu de la loi d'accès à l'information. une femme de la Mauricie qui est sortie jouer au poker après une prise de bec avec son conjoint est introuvable depuis qu'elle a quitté un bar vers 2h15 du matin la semaine dernière. François Venn se fait un sang d'encre depuis que sa conjointe Mélissa Blais, 34 ans, a disparu. Elle a été vue pour la dernière fois quittant un bar de Louisville très tôt le matin jeudi dernier, vers 2h15. Plus tôt ce soir-là, le couple s'était chicané à la table au souper, confie l'homme. Un incident banal, selon lui. Elle est partie choquée, oui, mais on ne s'est pas lancé des assiettes non plus. Elle est partie en disant qu'elle voulait se changer les idées et elle est allée jouer au poker. Plus tard dans la soirée, la mère d'une adolescente de 15 ans et d'un garçon de 9 ans lui a envoyé un SMS vers 23h45. Il dormait et n'a vu le message que le lendemain matin. Elle m'avait texté qu'elle avait gagné 100 $ au poker et qu'elle allait se calmer un peu, rapporte-t-il. Sa Toyota Corolla noire 2011 4 portes immatriculée Y70FAD est introuvable malgré les efforts de la Sûreté du Québec qui a survolé le secteur par hélicoptère vendredi, tout comme François Venn qui a fait les démarches avec un ami dans un autre hélicoptère. La Sûreté du Québec, pour sa part, poursuit les démarches d'enquête comme la vérification de caméras de surveillance ou de transactions bancaires. CA Québec veut serrer la vis aux récidivistes. Les élus se penchent sur le fléau du cellulaire au volant. Le Club automobile compte parmi les quelques groupes d'experts qui seront entendus aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur l'utilisation des appareils de téléphonie mobile au volant. Il est clair qu'on est prêt pour de l'action plus musclée en matière de contrôle et d'intervention, a indiqué la vice-présidente de CA Québec, Sophie Gagnon, en entrevue avec notre bureau parlementaire. Plutôt que d'augmenter les amendes comme l'Ontario s'apprête à le faire, on pense qu'il faut agir du côté de la récidive et davantage sur les points d'inaptitude, croit toutefois Mme Gagnon. À partir du 27 novembre, les voyageurs canadiens qui désirent prendre l'avion avec de la poudre pour bébé dans leur bagage devront disposer d'un contenant de moins de 350 millilitres. Transport Canada a publié hier une nouvelle série de restrictions sur les produits qu'il est possible d'apporter à bord d'un vol. Outre la poudre pour bébé, la limite de 350 millilitres touche plusieurs produits granuleux comme le sable, les sels de bain, le sel de mer et la poudre pour les pieds. Plusieurs produits continuent de n'être soumis à aucune limite, comme les préparations pour nourrissons, les protéines en poudre, le thé et le café. Transport Canada lèvera également l'interdiction sur certains types de petites lames. Les lames de moins de 6 cm seront désormais acceptées à bord des vols intérieurs et internationaux, sauf aux États-Unis. Les canifs et les lames de rasoir resteront également interdits sur tous les vols.
Chaque battement de cœur me fait vibrer en danse. C'est comme l'horloge qui claque et fait sonner les temps. Elle brûle les secondes, les fait partir. On vint si un jour j'oubliais qui de nous deux décide. Nous savons tous très bien qu'elle m'aura par le temps. Thank you.
quand le pendule se balance et me nargue en même temps. Et c'est fort si tu veux t'en demeure attraper. Nous savons tous les deux que moi seul peux gagner. C'est comme l'horloge qui claque et fait sonner les temps. Elle brûle les secondes, les fait partir au vent. Si un jour j'oubliais qui de nous deux décide, nous savons tous très bien qu'elle m'aura par le temps.
C'était Laurence Castera avec la pièce L'horloge.
C'est dans le Journal de Montréal, section Évasion, séjourner dans un chalet luxueux sans être riche, un article d'Alain Demers. Passer un week-end dans un chalet de grand confort, c'est plus accessible qu'on pense. Il suffit de former un groupe de 6 ou 8 personnes et de partager les frais. Vérification faite auprès d'une dizaine d'endroits pour des chalets 3 ou 4 chambres, de niveau 4 étoiles ou s'en rapprochant. Les tarifs sont en général de 50 à 100 par personne par jour. Les prix varient selon la période de l'année, la localisation et les services sur le site. On parle donc d'une moyenne de 75 par personne par jour, ce qui est avantageusement comparable à une chambre d'hôtel 4 étoiles. De plus, on n'a pas allé au restaurant, ce qui fait une énorme différence dans le coût d'un séjour. Voici 3 lieux à découvrir. Au Chalet, à Chersey, dans Lanaudière, Au Chalet comprend 9 unités au bord d'un lac. Le Nomade, un chalet de type métis contemporain, est doté de multiples commodités, notamment 3 salles de bain, un cinéma maison et un bain à remous extérieur. Aux alentours, en hiver, raquettes, ski de randonnée et patins sur le lac. Blueberry Lake. À 30 minutes de Mont-Tremblant, à La Belle, le Blueberry Lake est un vaste complexe de villégiatures de 60 maisons en bois rond avec plafond cathédral, table de billard et jacuzzi extérieur. Un spa abrite un sauna, un bain vapeur et une salle de gym. Là aussi, on s'adonne à la raquette, au ski de randonnée et au patin. Sommet Charlevoix, de la fenêtre de plusieurs chalets de Sommet Charlevoix à Petite-Rivière-Saint-François, le point de vue sur le fleuve est remarquable. On ne manque de rien, piscine chauffée extérieure, sauna et bain à remous. Sur le site, patins, ski de fond et raquettes. À proximité, le massif de Charlevoix pour le ski alpin et la luge, tout un séjour en perspective. En bref, 75 par jour par personne en moyenne. En moyenne, dis-je bien, au chalet.ca, www.blueberrylake.com et www.sommet-charlevoix.com. D'autres idées pour le week-end, toujours selon Alain Demers, les mésanges de Châteauguay. Sur les sentiers du Centre écologique Fernand Séguin, des mésanges se posent dans nos mains pour saisir des graines de tournesol. Apportez-vous un sac avant le départ. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, www.ilsaintbernard.com. Autre idée, le long de la rivière du Nord, au parc régional de la rivière du Nord à Saint-Jérôme, un sentier pédestre quatre saisons passe près d'un étang animé de nombreux canards. Le trajet mène aux chutes Wilson. Alors, l'adresse Internet encore une fois, parc-rivière-du-nord.ca. Des croisières sans enfants dès 2020, c'est encore dans le Journal de Montréal. Lorsque Virgin Voyage lèvera l'ancre en 2020, les paquebots du nouveau croisiériste se concentreront sur les adultes et n'accepteront à bord ni enfants ni adolescents. À l'occasion d'une conférence de presse menée par Richard Branson à Gênes, en Italie, où la construction de trois navires du nouveau croisiériste vient de commencer, le patron de Virgin a expliqué que les paquebots de son groupe seront réservés aux personnes de 18 ans et plus. Cette décision a été motivée par la demande croissante d'une expérience plus haut de gamme, ont noté les intéressés, une manière pour les voyageurs d'échapper à leurs responsabilités parentales, au moins pour quelques jours. Inspirés des super yachts de luxe, ces navires afficheront une coque grise métallisée et des vitres teintées sans oublier le rouge signature du logo Virgin. Chaque paquebot proposera des cabines avec terrasse sur la mer et presque toute une vue directe sur les flots. Les personnes intéressées peuvent déjà réserver leur place à bord, mais il leur faut déposer une caution remboursable de 500 $. Le premier navire Virgin Voyage sera amarré dans le port de Miami et voguera dans les Caraïbes. Il pourra accueillir 2700 voyageurs et 1150 membres d'équipage. On notera que le croisiériste anglais P&O Cruises propose déjà des croisières entre adultes sur trois de ses navires, l'Arcadia, l'Oriana et la Donia. Cinq nouvelles maisons Gilles Carle en vue. Le cinéaste Gilles Carle a été emporté en 2009 par la maladie de Parkinson. Le combat de sa compagne Chloé Sainte-Marie, qui a été son aidante naturelle pendant 17 ans, est toujours bien vivant. La Fondation Maison Gilles Carle souhaite ouvrir 5 nouvelles maisons de répit d'ici 5 ans. La Fondation lance cette semaine sa campagne de financement. C'est dans la presse d'aujourd'hui sous la plume de Catherine Henfield. Quand on dit 5 maisons en 5 ans pour 5 millions, c'est sage comme formulation. Le rêve, c'est d'en faire 10, a lancé Chloé Sainte-Marie hier lors d'un entretien téléphonique avec la presse. La première maison Gilles Carle et la seule à ce jour a été inaugurée en 2012. Située à Cowansville, elle soutient annuellement quelque 300 familles. La Fondation souhaite reproduire le modèle à Boucherville en Montérégie, à Prévost dans les Laurentides, sur la Côte-Nord, en Mauricie et en Outaouais. Les trois premiers projets, Boucherville-Prévost et la Côte-Nord, sont particulièrement avancés, indique Chloé Sainte-Marie, porte-parole de la Fondation. Les équipes porteuses du projet sont formées. Les maisons sont repérées. Le concept des maisons Gilles Carle comble un besoin criant qui ne l'est pas dans l'offre de services actuelle, indique Chloé Sainte-Marie. Celui d'accueillir l'aidé dans la maison de répit pendant que l'aidant se repose à la maison. À l'heure actuelle, des regroupements peuvent envoyer un préposé à domicile pour permettre à l'aidant d'aller se reposer ailleurs, ce qui est très bien, convient Chloé Sainte-Marie. Mais l'ultime repos, dit-elle, c'est bien souvent à la maison qu'on peut l'atteindre. À mon avis, c'est vraiment ça la clé, indique la chanteuse et actrice. Pour savoir ce que c'est que la tournée, on ne se repose pas à l'hôtel. Quand on est épuisé, on ne se repose pas ailleurs que dans son propre lit, dans ses affaires. Chloé Sainte-Marie a connu des périodes sombres dans son rôle d'aidante. « J'ai eu des moments de dépression profonde, de fatigue extrême, dit-elle. La dépression vient avec la fatigue. Mais quand on est en forme, c'est très valorisant être aidant. Ce n'est pas de la compassion, c'est de l'amour pur. Il y a de grandes, grandes joies, mais il faut du répit. Les maisons Gilles-Carle accueillent les aidés pendant quelques jours. Les aidants dont ont l'option au début de rester avec les aidés à la maison, le temps de se sentir à l'aise de laisser leurs proches. Pour que l'aidante soit en paix, il faut que le lieu soit familial, insiste Chloé Sainte-Marie. À Cowansville, on a juste 4 chambres. On arrive au constat que ce n'est pas assez. Il faut avoir 8, 10, 12 chambres, mais ça reste à dimension humaine. La Fondation Maison Gilles-Carle compte sur les fonds publics et privés pour mener à bien ses projets. La campagne de financement qui débute cette semaine à l'occasion de la Semaine nationale des proches aidants sollicite les particuliers et les grandes entreprises. L'équipe a rencontré la ministre responsable des aînés. L'ex-ministre Marguerite Blais est la première ambassadrice de la Fondation, tandis que l'animatrice et actrice Marina Orsini en est la marraine. Dès 17h demain à l'église Saint-Viateur d'Outremont, la Fondation Maison Gilles-Carle convie les aidants et les aidés à la première édition du Grand Potluck sous le thème « Donner de l'amour aux aidants ». Les participants doivent apporter un plat à partager et la boisson qu'ils souhaitent consommer. On veut créer une forme de rituel, de plaisir, de vérité, indique Chloé Sainte-Marie, qui espère en faire une tradition dans toutes les régions du Québec qui accueilleront une maison de répit. Si vous êtes intéressé, 514-722-5253, 722-5253.
Et on vient d'entendre la très longue pièce Le sexe des étoiles. C'était signé Claude Pelgag.
Actualité internationale, visite de Donald Trump en Asie. Golf, ketchup et carpe au Japon. Le président américain Donald Trump est arrivé au Japon dimanche, premier arrêt d'un périple de 10 jours qui le mènera dans 5 pays asiatiques. Donald Trump a été accueilli par son vis-à-vis japonais, le premier ministre Shinzo Abe. Parmi les sujets abordés par les deux hommes, il a bien entendu été question de la Corée du Nord. Mais la politique, ce n'est pas tout. Les deux dirigeants ont profité d'un moment de détente en s'affrontant sur le terrain de golf. Si Shinzo Abe a affirmé que le duel avait été serré, Donald Trump a préféré ne pas faire de commentaires sur le sujet. Les services japonais du protocole n'ont apparemment pas voulu pour le premier repas dépayser leur hôte américain. Le chic country club du terrain de golf a servi des hamburgers au bœuf américain. Rien n'a été laissé au hasard avec un gros flacon de ketchup, l'assaisonnement apprécié du président américain trônant au milieu de la table. Le premier ministre japonais a profité de ce lunch pour offrir à son homologue une casquette. Le slogan de la campagne présidentielle de Donald Trump avait visiblement inspiré Shinzo Abe. Juste avant un déjeuner dans le palais d'Akasaka à Tokyo, maison des hôtes d'État, Donald Trump s'est prêté à un rituel consistant à nourrir des carpes koi. K-O-I, en jetant dans leur étang des aliments. Le président a fait les délices des réseaux sociaux après avoir été photographié en train de verser en une fois une grande quantité de nourriture pour poissons dans un geste d'impatience imitant celui d'Abe. Melania Trump a pour sa part rencontré des enfants d'une école primaire. Le président catalan destitué Carles Puigdemont a accusé hier le gouvernement espagnol de pratiques non démocratiques après avoir été laissé en liberté la veille par la justice en Belgique où sa présence pour une durée inconnue provoque des remous politiques. « Libre et sans caution », a lancé M. Puigdemont dans un message en catalan sur les réseaux sociaux Twitter, sa première déclaration depuis que le mandat d'arrêt européen lancé contre lui par Madrid lui a été notifié dimanche par les autorités belges. Nos pensées sont pour les collègues injustement emprisonnés par un État qui est loin de la pratique démocratique, a-t-il ajouté en référence au placement en détention en Espagne d'autres anciens membres de son gouvernement destitué. Carles Puigdemont et 4 de ses anciens ministres exilés en Belgique depuis une semaine sont, eux, ressortis libres dans la nuit de dimanche du bureau d'un juge d'instruction belge au terme d'une longue journée d'audition. En Belgique, ils nous donnent la liberté sans caution, tandis qu'en Espagne, nous serions emprisonnés, a mis en parallèle hier Mireille Serret, l'une des ex-ministres catalans à Bruxelles, avec M. Puigdemont. Les 5 Catalans ont été laissés en liberté sous condition, dans l'attente de l'examen sur le fond des mandats d'arrêt. Ils ont l'interdiction de quitter le territoire belge et devront se présenter à toute convocation de la justice et de la police. Les dizaines de personnalités saoudiennes arrêtées dans le cadre d'une purge anticorruption sans précédent dans le royaume vont être jugées devant un tribunal, a indiqué hier le procureur général. Des princes, dont le célèbre milliardaire Al-Walid Ben Talal, des ministres ainsi que des hommes d'affaires, ont été appréhendés samedi lors d'une opération coup de poing qui fait suite à la mise en place d'une nouvelle commission anticorruption. Celle-ci a mis au jour des preuves de corruption généralisée, a affirmé son président Caleb Ben Abdelmohsen dans un communiqué. Tous ces changements interviennent au moment où le prince héritier Mohamed Ben Salman, 32 ans, tente de consolider son pouvoir et d'introduire des réformes économiques et sociales inédites dans le royaume ultra-conservateur. Exclusivité dans la presse, sous la plume d'Hugo Dumas, The Final Four remplacera-t-il la voix? Une fois que toutes les déclinaisons possibles de la voix, junior, senior, le ressécor, etc., auront été épuisées, et ça s'en vient, TVA proposera à ses téléspectateurs une toute nouvelle compétition de chant qui s'annonce, sans sarcasme ici, vraiment excitante. Selon mes informations, TVA a acheté les droits d'adaptation du populaire format israélien de Final Four, qui se développe également chez Fox pour combler le départ d'American Idol vers ABC. The Final Four démarre là où la plupart des télécrochets s'arrêtent. Dans le premier épisode, l'animateur présente les quatre meilleurs candidats repêchés aux auditions. Ces quatre chanteurs ou chanteuses se vissent alors dans leur fauteuil qu'ils tenteront de conserver durant toute la saison. Ils sont donc les rois et reines à détrôner. Leur mission? Ne jamais perdre leur précieuse place. Mais attention! Toutes les semaines, des recrues tenteront de déloger ces quatre concurrents originaux. Comment? En deux étapes. D'abord, les recrues offriront une performance devant les trois juges permanents de l'émission. Si les trois juges leur disent oui, les recrues passent au chapitre suivant, défier en duel, comme à la voix, un des quatre champions en résidence. Évidemment, les recrues optent très souvent pour la personne la plus faible des quatre, celle qu'elles ont le plus de chances de battre. Après le duel, c'est le public à la maison qui tranche. On garde le candidat en place ou on le remplace par le nouveau. Au bout de 13 semaines, les quatre personnes encore assises sur les fauteuils s'affrontent en grande finale pour mettre la main sur la couronne. Honnêtement, ce concept colle parfaitement à TVA et ne détonnerait absolument pas dans la case du dimanche soir. Et un peu plus loin, Hugo Dumas parle de la soirée électorale. Grosse soirée électorale. J'ai zappé comme un déchaîné entre Pierre Bruno à LCN, Patrick Roy à RDI, La Vraie Nature à TVA et Tout le monde en parle à Radio-Canada dimanche soir. J'ai évidemment regardé Occupation double AV, Seigneur Jésus du ciel, mais je vous garde ça pour plus tard cette semaine. Constat de soirée électorale municipale, Pierre Bruno est beaucoup plus alerte que Patrice Roy. Plus vif, plus animé. Le chef d'antenne de TVA réalignait la conversation sur les derniers résultats compilés ou le revirement de dernière heure. Il tenait les cordeaux de son plateau bien serrés. Patrice Roy était trop relax et parfois brouillon, alors que des luttes historiques se menaient à Montréal. Son animation manquait de tonus. Contrairement à la SRC qui a sollicité les lumières de Marie Grégoire et de Yolande James, TVA n'a fait aucun effort pour diversifier son panel de commentateurs formé par Bernard Drainville, Mario Dumont et le sondeur Jean-Marc Léger. Dans une soirée où autant de femmes ont été élues mairesse partout au Québec, ça détonnait, mettons. En plus d'avoir largué Gilbert Rozon, voici que la production de La France a un incroyable talent se dissocie du festival Juste pour rire. Depuis la troisième saison, le vainqueur de l'émission de M6 obtenait en plus d'un prix en argent de 100 000 euros, 150 000 Canadiens, une participation au Festival d'humour montréalais. Ce ne sera pas le cas cette année, selon l'hebdomadaire français Télé Loisirs. La 12e saison de La France a un incroyable talent, dont on avait déjà tourné les 5 premières émissions, sera diffusé à partir du jeudi 16 novembre, en retard de 3 semaines, sans Gilbert Rozon au sein du jury. Toute la portion des auditions ayant été jetée au panier, le public ne verra que les demi-finales et la finale en direct. Le visage de Rozon n'apparaîtra pas non plus dans les résumés d'audition présentés en ondes. Rectificatif, dans l'entrevue avec Claudette Dion publiée hier, nous avons écrit que son frère Paul était décédé. Il s'agit plutôt de Daniel. Toutes nos excuses. L'écrivain français Éric Vuillard a remporté le prestigieux prix Goncourt 2017 pour l'ordre du jour qui évoque la montée du nazisme dans les années 30. Bernard Pivot, président du jury, affirme que l'ordre du jour est un livre fulgurant avec une formidable écriture. Ce choix a cependant attiré quelques critiques puisque la maison qui a édité le livre, Actes Sud, a été cofondée par la ministre française de la Culture, Françoise Nyssen. Quant au prix Renaudot, qui lui a aussi été attribué hier à Paris, il est revenu au français Olivier Guèze pour La disparition de Joseph Mengele. Le roman traite également du nazisme, soit du tortionnaire du camp d'Auschwitz et de ses années de fuite. Leonard Cohen, Tower of Song, ou Tower of Song, un hommage remarquable. Le spectacle unique qui a rendu hommage à Leonard Cohen hier soir au Centre Bell a sans doute été improvisé en partie jusqu'à la toute fin. Mais il y avait dans ce témoignage artistique très senti une admiration tangible qui soulignait l'envergure poétique mais également musicale de l'artiste disparu. Il y a un an, c'est Alain de Repentigny qui en parle et il termine avec son verdict que je vous lis. Adam Cohen a eu raison de parler de la générosité des chanteurs et musiciens dont le guitariste Mark Ribot et Javier Mas ovationné. Mais tout dans ce spectacle qui a fait salle comble était remarquable, du décor très classe aux extraits vidéo pertinents. Il y avait dans cet hommage senti des versions fort différentes de ce que Leonard Cohen nous a donné à entendre au fil de sa carrière, mais aussi des trucs plus fidèles. Patrick Watson a mis la barre haut tôt dans la soirée avec une version magnifique, planante, éthérée de Who by Fire. Plus tard, la chanteuse soul Betty Lavett s'est appropriée In My Secret Life, comme si elle avait été écrite pour elle. Sting, qui nous a paru moins allumé que la moyenne, a sauvé la mise avec sa version trempée dans le folklore britannique de Sisters of Mercy, qu'on avait déjà entendu sur disque. Et les Lumineers nous ont rappelé la pertinence de Leonard Cohen en faisant de sa « Democracy » une protest song folk des années 60 tout à fait actuelle. Tous ensemble, ils ont fait revivre Leonard Cohen sous nos yeux. Et j'ai entendu aussi parler de la version magistrale de Kiddy Lang qui a chanté « Alléluia ». Alléluia, chanté par nul autre que Leonard Cohen. On poursuit avec les journaux régionaux. Jean-François Néron dans Le Soleil, recomptage demandé dans le district de Gosselin. Jean-François Gosselin devra encore attendre avant de célébrer son titre de chef de l'opposition officielle sans crainte de se le voir enlever. Équipe La Bombe demande un recomptage judiciaire des voix dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux, district qui a pavé la voie de l'hôtel de ville à M. Gosselin. La formation politique du maire Labombe a confirmé lundi qu'elle s'adressera à la Cour du Québec à la suite de l'élection de Nancy Pieuse, colistière du chef de QC ou Québec 21 dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux. La candidate a remporté la victoire avec une majorité de seulement 69 bulletins. Elle a obtenu 4 991 voix contre 4 922 pour Mme Trudel, qui occupait le poste de conseillère depuis 12 ans, dont les 8 dernières pour équipe Coderre. Dimanche soir, Jean-François Gosselin confirmait qu'il occuperait le siège gagné par Mme Pieuse pour pouvoir affronter Régis Labombe dans l'enceinte du conseil municipal. La nouvelle de la contestation d'équipe Labombe ne l'inquiète nullement. « C'est une tactique de plus pour nous mettre des bâtons dans les roues. Je m'attendais à ce qu'ils en demandent un », indique-t-il, confiant que le recomptage ne lui enlève pas la victoire. Hier soir, ça a été long avant d'obtenir le résultat dans le district. « J'ai compris qu'ils ont recompté plusieurs fois pour être sûrs parce que c'était serré. Le Soleil a appris qu'il y aurait eu plus de 130 voix rejetées. La loi électorale prévoit que toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'un scrutateur ou que le directeur du scrutin a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé du dépouillement inexact peut demander un dépouillement judiciaire des votes. Alors, il s'agit bien de l'équipe La Bombe, parce que je pense que Jean-Sébastien m'a entendu dire l'équipe Coderre à un moment donné dans ma lecture, mais on parle ici de Québec et de l'équipe La Bombe. Encore dans le soleil, un nouveau gala pour célébrer la gastronomie québécoise. Raphaël Plante au Québec, la musique a ses Félix, la télé a ses Gémeaux, l'humour a ses Olivier et la gastronomie aura désormais ses Lauriers. Les artisans du milieu gastronomique québécois seront honorés lors d'un premier gala qui se tiendra au printemps et où seront remis 15 prix récompensant notamment le chef de l'année, la révélation, le sommelier, le mixologue, le producteur, le chef pâtissier, sans oublier le food truck de l'année. L'ambassadeur de l'événement, Ricardo Larrivé, signale qu'il n'y avait encore rien pour célébrer l'industrie de la gastronomie chez nous. La France a ses Bocuse, les États-Unis ont les James Beard Awards, nous, on aura les Lauriers. Dans le droit, un troisième site d'injection supervisé, Daniel Leblanc. Dans un rayon d'à peine 250 mètres, on comptera désormais trois centres d'injection supervisés dans le marché Bay à Ottawa. Les consommateurs de stupéfiants pourront dès mardi visiter La Roulotte, un site d'injection aménagé dans une remorque installée à l'arrière du refuge des Bergers de l'Espoir, situé à l'angle de la rue Murray et de l'avenue King Edward. Le nouveau centre d'injection a obtenu le feu vert de Santé Canada en fin de journée lundi. De quoi satisfaire le maire Jim Watson, qui soutient avoir été impressionné par la qualité des installations lors de sa visite en fin de semaine. « Je pense que c'est un endroit sensé pour avoir un tel centre. Ce sera chauffé, propre et il y aura du personnel qualifié », dit-il, ne cachant pas souhaiter que les gouvernements investissent dans les initiatives légitimes. Il espère également que ce nouvel emplacement permettra de convaincre une fois pour toutes le groupe Prévention Surdose Ottawa de fermer boutique au parc Raphaël Brunet, où un site d'injection supervisée illégale est opéré depuis la fin août. La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, a salué l'initiative sur Twitter. C'est à la une du quotidien, Denis Lemieux démissionne. Une nouvelle bombe politique a explosé lundi matin alors que le député fédéral de Chicoutimi-le-Fjord, Denis Lemieux, a annoncé sa démission dans un communiqué transmis au service de nouvelles sur le coup de 9 heures. « J'annonce à la population de ma circonscription électorale, à mes amis précieux collaborateurs et collègues du Parlement canadien que je démissionne de mon poste de député de Chicoutimi-le-Fjord. La seule et unique raison qui motive cette décision mûrement réfléchie est d'ordre familial. Je tiens à remercier sincèrement les électeurs qui m'ont appuyé au cours de ces dernières années. Je garderai une très grande fierté de les avoir servis au meilleur de mes connaissances et compétences dans le gouvernement du très honorable Justin Trudeau », a indiqué le député dans son communiqué. Selon des informations obtenues auprès d'une source bien informée, le député n'appréciait pas que des membres de sa famille soient victimes de commentaires déplacés en raison de son rôle de député libéral. Il évoque cette cause dans le communiqué diffusé ce matin, quand il motive son départ pour des raisons familiales. D'ailleurs, lors d'une entrevue accordée au quotidien il y a quelques semaines, le député Lemieux avait indiqué que s'il n'en tenait qu'à sa famille, Il démissionnerait le soir même, et ce, bien qu'il ait beaucoup de plaisir à aider sa région par son rôle de député. Dans le Nouvelliste, Audrey Tremblay. Le lancement des travaux du nouveau palais de justice de la TUC était attendu depuis très longtemps en Haute-Mauricie. Il s'agit d'un investissement de 5,3 millions. L'argent permettra d'aménager les nouveaux locaux dans l'ancienne salle de quai royale du Carrefour La TUC. Le chantier devrait se terminer à l'automne 2018. On est très heureux de faire cette annonce-là qui est attendue depuis fort longtemps et qui, d'abord et avant tout, répond à un besoin du milieu. C'était attendu et justifié. C'était un projet au départ de 1,7 million de dollars. Aujourd'hui, on a fait le tour des besoins et c'est 5,3 millions qu'on annonce, a lancé la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulay. Cette dernière a fait l'annonce lundi en compagnie de la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Stéphanie Vallée. C'est tout pour les voies de service quotidiens. Merci d'avoir été présent à l'écoute et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour les paractualités si vous nous écoutez en direct. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis. À très bientôt, j'espère.